мною принято решение о проведении специальной
военной операции. J'ai décidé de mener une opération spéciale.
Ее цель – защита людей, которые на протяжении...
Elle vise à protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation et soumises à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Pour cela, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine.
Il y a trois mois, presque jour pour jour, Vladimir Poutine, le président russe, déclare la guerre à l'Ukraine. Aujourd'hui, cette guerre, que les forces russes imaginaient rapide, fait encore rage. Les Ukrainiens, soutenus par l'OTAN, opposent une résistance inattendue. Combien de morts en trois mois? En l'absence de statistiques indépendantes, le bilan est impossible à dresser. Certainement des dizaines de milliers. Militaires, russes et ukrainiens, mais aussi civils ukrainiens, victimes de crimes de guerre dans des villes martyres comme Boutcha. Combien d'Ukrainiens ont fui leur pays? Plus de 6 millions selon le Haut Commissariat aux réfugiés, un Ukrainien sur 7. Un exode sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. La France accueille une petite part de ces réfugiés, 60 000. Les hommes sont restés se battre. Ce sont donc des femmes en grande majorité.
En résumé, plus la guerre durera, plus je me lancerai dans l'apprentissage du français. Si je parviens un jour à trouver un travail dans mon domaine, je ne quitterai jamais la France. Le problème, c'est que je suis assez âgée et c'est dur de refaire sa vie ici. Mais la refaire en Ukraine, je ne suis pas certaine d'avoir la force.
En France, les réfugiés ukrainiens bénéficient d'un titre provisoire de séjour. Il fait aussi office d'autorisation de travail et leur donne accès à la couverture universelle maladie. Ils ont aussi droit à l'allocation pour demandeurs d'asile. Et puis la solidarité joue à plein. L'hébergement est majoritairement chez l'habitant, les cours de français assurés par des bénévoles.
Souvent vous dites « je » et c'est « je ». « Je ». « Je ». Pas « je ». Mais je...
Je m'appelle Vladimir.
Avec un conflit qui se prolonge, comment former plus efficacement aux Français ces réfugiés pour les intégrer? C'est aujourd'hui l'enjeu au marché du travail. Comment maintenir vivace le premier élan de solidarité envers eux? Trouver des hébergements pérennes? Comment s'organiser quand le provisoire dure? La vie en suspens des réfugiés ukrainiens en France, un reportage de Vanessa Descours.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Salut. Tu vas bien? Tu te souviens? Ça fait plaisir de te voir ici. Hein? Bon, vous êtes bien là?
Bien. Elle va à l'école.
Tu vas tous les jours à l'école? Oui. Oui.
Villers-Canivet, village du Calvados, à une trentaine de kilomètres au sud de Caen. C'est pas tout à fait une météo du mois de mai pour ce barbecue, ce pique-nique organisé pour les familles ukrainiennes qui sont hébergées dans le secteur. Leurs familles d'accueil sont là, il y a aussi les élus locaux, les associations. Il y a une dizaine de familles ukrainiennes hébergées dans les alentours.
Allez, on y va. Un, deux, trois. Ah non, pas à côté du micro, je suis trop fort.
Olesia, c'est la jeune femme ukrainienne qui est hébergée chez Daniel et Odile, chez qui nous sommes. On va aller enregistrer la version ukrainienne.
Ça pleure pour un anniversaire.
Je suis trop émotive.
Oh mon Dieu.
Et Odile pleure.
Bon,
voilà, on voulait dire...
Bon, pour commencer, je vais commencer.
La musique.
J'y vais.
Vas-y.
J'aimerais vous dire quand même... Oui. Une aventure a commencé il y a plus de 8 semaines. Grâce à notre fils, qui a communiqué sur des jeux ou...
Des jeux en ligne.
Des jeux en ligne, avec Olesia. Et elle nous a demandé si on voulait bien prendre une famille ukrainienne.
Non, c'est nous au départ, on a dit on va accueillir.
On va accueillir, oui, vas-y.
Et Baptiste a dit, si tu veux accueillir une famille, nous, moi je connais quelqu'un. Ouais. Donc c'était Olesia.
C'est une très belle aventure que je regrette pas du tout. Et ça nous fait chaud au cœur.
Voilà.
Voilà.
Bravo Daniel, bravo Adil, bravo. Bravo français.
Moi je suis trop émotive, je pleure tout le temps.
C'est normal, c'est les émotions.
Ouais.
Odil, c'est une harmonie всюди. Де б ми не були, чи на кухні, чи яку б роботу не робили, це така гармонія, як з мамою. І я дуже вдячна їм і всім, тому що кожен, хто прийшов, він чимось долучився для нас.
Dis personnellement merci vraiment à toi parce que toi à la maison c'est la maîtresse harmonique avec tout le monde, avec elle, avec ses enfants, avec même ton mari.
Oui.
Tu es harmonique vraiment, vraiment. Et trouve à toi comme sa maman ici.
Bien, c'est super. Et...
Alors pour continuer les présentations, Slava, c'est la femme d'un agriculteur du coin qui depuis a un rôle essentiel dans tout le dispositif, c'est qu'elle vient tout simplement traduire. Donc Slava, c'est un personnage incontournable dans la région.
Oui, elle est bien ici chez bien. Vous, elle est très très bien ici, mais il veut dire aussi un merci à tout le monde, tout le monde aussi.
C'est que sa maman, elle m'a envoyé un message sur WhatsApp.
D'accord.
Pour me dire merci Madame Odile pour ce que vous faites pour ma fille, mes petits-enfants. Ouais, ouais, ouais.
Merci. Merci.
Il y a un truc qui ne sait pas. S'il vous plaît.
Si, si. Regarde, il y a là. C'est très important.
C'est merveilleux.
C'est un Ukrainien. Même
nous sommes avec Olesia, âgée de 38 ans, maman de deux enfants, un garçon de 13 ans et une petite fille de 5 ans. Vous venez de la ville de Boucha. Comment vous vous êtes retrouvée en France ?
J'avais des amis en France et ils m'ont proposé de l'aide. J'ai hésité pendant pas mal de temps, mais les enfants étaient toujours en stress et on a pris la décision de partir.
Comment vous vous sentez ici, en Normandie, dans une ville que vous ne connaissiez pas il y a encore quelques semaines ?
Je me sens bien. Ici, on est très bien accueillis. La famille d'accueil est devenue comme ma deuxième famille. J'ai trouvé un deuxième papa et une deuxième maman. Et bien sûr, toutes mes pensées sont en Ukraine, parce que là-bas, il y a mes proche, c'est ma terre natale.
Votre mari est en Ukraine ?
Oui, il est en Ukraine. Il est parti au front, il aide comme il peut sans prendre part directement au combat parce qu'il n'a aucune expérience avec les armes.
La ville de Boutcha maintenant est connue malheureusement pour de sinistres raisons dans le monde entier. Vous avez découvert tout ça, tous ces crimes de guerre ici quand vous étiez en France. Comment vous avez vécu ces moments-là ?
Moi, j'ai pleuré pendant plusieurs jours. Je ne pouvais pas être dans mon état normal. Parce que si pour vous, cela concerne seulement des gens aux infos, pour moi, ce sont des personnes que je connais. Je vois les visages de ceux qui ont disparu et je les connais. Je lis des témoignages de viols contre des fillettes qui ont 10 ou 13 ans et qui maintenant sont enceintes. Ce sont des choses épouvantables. C'est impossible à comprendre. Il ne faudra pas oublier ça. Parce que ça pourrait être vite oublié. La Russie est le pays du mal total. Moi, je veux que les responsables soient punis pour ces crimes. C'est effroyable ce qu'ils ont fait. Ça n'aurait jamais dû arriver.
Avec toutes ces atrocités, est-ce que vous arrivez à vous projeter dans une vie en France ?
C'est difficile. Tu te réveilles avec des informations horribles, tu t'endors avec elles, parce que tu dois savoir ce qui se passe pour tes proches là-bas.
Et retourner un jour en Ukraine ?
Je veux revenir en Ukraine, mais sans la guerre. C'est trop de stress au quotidien. C'est très difficile d'entendre tout le temps les sirènes d'alarme. En pleine nuit, tu dois te réfugier dans une cave avec tes enfants. C'est difficile. C'est psychologiquement difficile. Ça affecte le moral des enfants, le moral de tout le monde. La majorité des gens qui font la guerre en Ukraine, ce sont des volontaires. Ils sont les pépites de notre nation. C'est pour cette raison que les enfants sont séparés de leur père pendant tout le temps de la guerre. Et pourquoi, au final ? L'Ukraine a besoin de la victoire parce que sans victoire, ils ne s'arrêteront jamais. Il n'y a pas d'alternative.
Aujourd'hui, il y a eu un sommet de l'OTAN.
Volodymyr Zelensky.
Un sommet faible, un sommet confus, un sommet où il a été clair que tout le monde ne considère pas que la bataille pour la liberté de l'Europe est l'objectif numéro un. Le port stratégique de Mariupol dans l'est de l'Ukraine est sous blocus et subit des attaques impitoyables par les forces russes.
Les Russes ont bombardé toutes les infrastructures comme les centrales électriques. Donc il n'y a plus d'électricité dans la ville. C'est l'enfer.
Au 8e jour de guerre, les troupes du Kremlin ont intensifié leurs frappes sur l'Ukraine.
Dès les premiers jours de l'invasion russe, des exactions auraient été commises contre des cibles civiles et de cités, un jardin d'enfants, un hôpital ou encore des immeubles résidentiels.
À Boutcha, l'armée russe a tué des centaines de civils sans raison.
L'émotion a largement débordé la petite communauté des survivants de Boutcha, qui espère que la Cour pénale internationale qualifiera de crimes de guerre les atrocités commises ici.
Mais il y a peu de chances que Vladimir Poutine ou d'autres responsables russes soient poursuivis.
Mes petites affaires.
Ah, gentil. Hein.
Daniel, vous êtes le référent de l'association Care for Ukraine, ici dans le secteur de Potigny. Et avec votre femme Odile qui est à côté de nous, vous accueillez Olesia, qu'on a entendu déjà dans ce reportage, Olesia et ses deux enfants. En tant que référent de l'ONG, vous gérez aussi, vous assurez le suivi plutôt de quatre autres familles. Pour vous, et je m'adresse à vous deux, Daniel et Odile, c'était une évidence?
Ben oui, ça s'est fait naturellement et qu'on voulait aider.
On a été, enfin moi j'ai été famille d'accueil pendant 20 ans pour garder des enfants en difficulté. Et comme je suis à la retraite depuis 3 ans, j'avais 3 chambres de libre et c'était une évidence, voilà.
Vous avez fixé une durée limite de son séjour auprès de vous, chez vous ?
Non, absolument pas, parce que comme on ne sait pas combien de temps va durer la guerre, je lui ai dit tout pendant que tu n'es pas prête à rentrer chez toi, tu restes ici, tu es la bienvenue.
Est-ce que la présence d'Olesia et de ses deux enfants représente une part non négligeable dans votre budget mensuel ?
Ah ben effectivement, on passe de 2 à 5.
Le problème n'est pas là. Ce qui revient le plus cher, c'est pas la nourriture. Et c'est pas pour Olesia. C'est pour les déplacements que je fais pour les 4 familles. C'est une moyenne minimum 150-200 euros de carburant.
Par
mois ? Ah oui, oui. 150 minimum. On peut pas plus.
Ça, plus quand même un frigo qui est plus plein que d'habitude, donc ça fait quand même un budget conséquent. Ouais.
Oui, sauf que quand même, elle touche une allocation de la préfecture, et depuis qu'elle a son allocation, elle fait les courses avec moi, on a chacun notre caddie, donc je lui dis, Olesia, toi, tu achètes ce qu'il faut pour tes enfants, et moi, dans mon caddie, voilà, je prends la viande, elle prend aussi des légumes, quelquefois, elle me prend un paquet de viande dans mon caddie, qu'elle met dans le sien, et voilà, les choses se font comme ça, et c'est très bien, parce que ça nous soulage aussi, nous, quand même.
Tout à l'heure, j'ai posé la question à Olesia, mais je vous la posais à vous également, parce que je pense que c'est un moment très important dans votre cohabitation tous ensemble. Olesia est de la ville de Boutcha. Oui. Elle était chez vous quand le monde entier a découvert les atrocités qui se sont déroulées dans cette ville en périphérie de Kiev. Je lui ai demandé comment elle avait réagi, elle. Comment avez-vous réagi, vous, en découvrant ça?
Moi, je peux vous dire qu'en fait, c'est Olesia qui me l'a appris. Parce que comme on se refuse de mettre le journal télévisé dans la maison, parce que la petite fille, ça la traumatise, en fait, toutes ces images-là. Donc moi, j'étais pas du tout au courant. Et par WhatsApp, elle m'a envoyé un message ce matin-là en me disant, Odile, ce matin, je reste dans ma chambre parce que j'ai appris des atrocités. Elle me dit, c'est féroce de Russes, ça a été son langage. Ces féroces de Russes ont massacré des civils, des femmes ont été violées, des femmes de mon village cherchent leurs enfants. Et elle m'a dit, je reste pour pleurer parce que c'est trop douloureux, quoi. Et en fait, c'est elle qui me l'a appris. C'était l'horreur, quoi. Et puis, le midi, les enfants sont venus de l'école, elle n'a rien fait paraître à ses enfants, elle a recommencé à prendre le cours de la vie normale. Pour ne pas que ses enfants en souffrent aussi, quoi.
On voit son visage dès qu'il y a des atrocités, si on peut dire.
Mauvaises nouvelles,
on voit son visage qui se referme. Et ça ne peut pas empêcher de le faire voir C'est normal. Des fois en voiture aussi le matin. Des fois on part quelque part. Si elle a vu son téléphone avant, le matin elle est fermée, puis d'un seul coup, bien sûr, elle reprend le dessus, mais bon. On la comprend.
En arrivant à Boutcha, voilà ce que les Ukrainiens découvrent. Des corps qui jonchent les rues.
Plus d'un million d'Ukrainiens ont dû fuir leur pays en une semaine.
Selon le gouvernement ukrainien, plus de 1000 écoles et collèges auraient été visés militairement depuis l'invasion russe le 24 février dernier.
Certains médicaments et effets personnels.
Tu as les ordonnances pour les médicaments? C'est des médicaments pour faire quoi? Tu peux pas les trouver en France?
Bon, translate.
Les choses qui arrivent, mauvaise traduction. Les aléas de Google Trad.
Non, narcotique. Narcotique.
Oui, ils ont très souvent mal à la gorge, son fils, sa fille, elle.
D'accord.
On est allé chez le médecin, elle a eu un traitement, mais peut-être qu'elle aime mieux les médicaments d'Ukraine. Hein.
Et du coup, l'Ukrainien, progressé?
Non, mais je connais un petit peu de polonais, donc comme d'accord, l'Ukrainien et le polonais, ça se ressemble. Quelquefois, on dit des mots en polonais.
D'accord.
On débloque quelquefois des...
L'expression faciale, on comprend si ça fonctionne ou pas.
Bah oui.
Alors, Lydia Méroné, chef d'entreprise à Paris, 29 ans, et présidente de l'association Care for Ukraine.
Toute jeune association, pour quelle raison l'avoir créée ?
À la base, c'était une initiative citoyenne. Je suis partie avec mon conjoint pour le premier convoi. Et puis tout de suite, la nécessité de se coordonner, de travailler avec d'autres personnes pour pouvoir amener plus de gens et pouvoir structurer l'accueil et le suivi par la suite.
Alors l'idée, c'est quoi ? C'est d'aller jusqu'en Pologne, récupérer des gens qui ont fui l'Ukraine. Et ensuite, c'est quoi ?
Les récupérer en Pologne, au centre humanitaire de Przemyśl, donc qui est près de la frontière polonaise et ukrainienne. On les ramène en France et pendant toute la durée du voyage, on fait en sorte de coordonner l'accueil qui leur sera réservé en France. On leur explique qu'il vaut mieux s'orienter vers des villes de taille moyenne, voire des petites villes, pour leur insertion dans un premier temps, que ce soit en famille d'accueil et pour l'emploi par la suite.
Je posais la question un peu crûment, vous me pardonnerez, mais comme c'est moi qui la pose, s'il y a des soucis, c'est moi qui les prendrai. Il y a plus de solidarité aussi, probablement, dans ces petits coins de France que dans des grandes villes où on ne sait pas comment s'appelle le voisin.
Oui, je ne sais pas si j'appellerais ça plus de solidarité, je dirais qu'il y a plus de connexions et de connaissances qui se croisent et donc qui font que l'action est peut-être plus forte, plus rapide, plus efficace. Donc c'est plus simple, je pense, de créer des petites niches au local et un réseau qui crée voilà, des petites communautés dans les villages. Et c'est aussi qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aider, mais qui ne peuvent pas forcément proposer d'hébergement. Donc ils veulent aider, voilà, donner des cours de français, donner de son temps, faire de l'accompagnement. Parce que ce qui est très important, c'est être relais des familles d'accueil. Elles donnent beaucoup de leur temps. C'est bien de pouvoir les soulager, que ce soit le temps d'une heure de français, d'une heure de dessin ou d'une autre activité.
C'est une évidence de dire que ce conflit est en train de s'installer dans le temps. Est-ce que ça change des choses pour vous dans votre action ?
Ce que ça change, c'est comment les réfugiés arrivent à se projeter. Parce que certains sont partis avec un sac à dos en se disant on fuit la guerre. Et maintenant, c'est combien de temps est-ce qu'on va rester ? Comment est-ce qu'on va s'installer ? Est-ce qu'on va aller ? Il y a aussi le manque affectif avec les proches qui sont restés en Ukraine. Donc vraiment, il y a ce tiraillement entre on veut s'installer en France et on veut retourner au pays. Donc voilà, c'est vraiment tout l'enjeu.
C'est arrivé à des personnes que vous suivez d'être rentrées au pays ?
Oui, pas plus tard qu'hier. Une femme et son enfant d'un an et demi ont pris le bus du retour.
Et là, vous vous dites quoi ? C'est nous peut-être qui avons échoué ? C'est pas un départ comme un autre ? Ça laisse des traces, ce genre d'appel ?
Oui, on a du mal à le comprendre. Je pense que c'est la première réaction. On se dit, mais vous êtes arrivés jusqu'ici. Repartez pas, c'est pas fini. Des bombes peuvent tomber n'importe où. Mais après, on comprend aussi leur besoin de retrouver leurs proches. Et ce qui est le plus dur, je pense que c'est pour les familles d'accueil qui les ont vus au quotidien. Il y a une attache une émotion, voilà, qui se dégage des familles d'accueil, qui est très dure pour elles. Donc je pense que c'est le plus complexe, c'est pour les familles d'accueil.
Il faut dire une chose importante qui m'est arrivée hier. Pour être précis, il était 18h, oui. C'est Luba. Hein.
Luba.
Chez Luba, il dit Daniel, puis quand je vais là-bas, elle ne veut pas que je reparte. Hein.
J'ai compris qu'elles veulent te faire manger, qu'elles veulent te
ouais,
manger.
Non, mieux là encore. Elle me dit, là, tu t'assois, elle prend un verre, elle met du sucre dans le fond du verre, comme ça, elle met de la crème.
De la crème fraîche, d'accord.
Et de la bière.
Sacré mélange.
Puis elle a tourné. Elle est bon. Ça pense.
Je te ferai ça, t'en voudrais pas, moi.
Ça va ?
Le flux de réfugiés ralentit. Effectivement, certains rentrent en Ukraine, mais il y a toujours beaucoup plus de départs du pays que de retours. Avec cette guerre qui s'installe, il faut donc s'organiser différemment, sur le temps long, en particulier sur la question du logement. À un quart d'heure de route de Villers-Canivet où nous étions, Vanessa Descoureaux poursuit son reportage dans le Calvados. Cette fois à Potigny, sur des terres de tradition minière, où la municipalité met gratuitement des logements à la disposition des familles ukrainiennes.
Est-ce que l'électricité ? Ah !
Bonjour.
30 secondes là.
Je vais passer de l'autre côté.
Bizarre, c'est pas passé mettre l'électricité. Bien. Alors, on y va ?
On va se mettre.
Là-bas, ça va être
à
mieux.
À côté ?
Ouais.
Moi, je m'appelle Daniel Bérel. Je suis responsable des logements, adjoint au logement, à Potigny.
Où sommes-nous très précisément ici, devant quelle maison ?
C'est une maison d'Amine. Cette maison n'est pas habitée depuis 25 ans. C'est des logements que l'on possède. Nous avons actuellement 80 logements miniers et on a 20 autres logements qui n'ont rien à voir avec les logements miniers.
On va peut-être parler aussi de l'histoire de Potigny, parce que vous l'avez dit, c'est une maison où des mineurs travaillaient. Ça veut dire qu'en termes d'immigration, la ville a un passé assez riche d'ailleurs.
Tout à fait. Nous avons beaucoup de Polonais à Potigny. C'est pour ça qu'on l'appelle la petite Varsovie. Potigny, on dit la petite Varsovie. On avait une famille ukrainienne à une époque. Enfin, ça brasse un petit peu toutes les nationalités.
La mine a fait venir pas mal de nationalités ici.
Tout à fait. Parce qu'à l'origine, et ce sont les mineurs qui ont construit toutes les maisons, vous voyez, notamment celle-ci. C'est le quartier des mineurs ici.
Dont beaucoup de Polonais.
Beaucoup de Polonais, oui. Et ils ont même construit la chapelle polonaise.
Donc pour vous, c'est quoi ? C'est comme une répétition de l'histoire, ce qui est en train de se passer ici ?
Tout à fait. On tenait à participer à l'accueil des Ukrainiens pour, perpétuer la tradition, quoi.
La tradition d'accueil ?
Oui, voilà, c'est ça, ouais.
Alors là, c'est des femmes qui cherchent encore un travail. On n'est pas dans l'analogie parfaite entre les mineurs qui venaient travailler à la mine ici. Ces dames doivent apprendre le français avant de trouver un travail. Dans quelles conditions peuvent-elles bénéficier de cette maison ?
La maison actuellement, pour elles, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien à payer. Tout est offert par la municipalité. Après, il faut faire très attention, il faut laisser un peu le temps à l'adaptation de ces personnes. J'ai Olga, là, qui est dans la famille rue du Marché à Potigny. Elle voudrait travailler, mais c'est ce que je lui explique. Il faut attendre un certain temps et il ne faut pas aller trop vite. L'important pour moi, au début, c'était d'accueillir une famille d'accueil, une deuxième déjà, pour qu'il puisse y avoir communication, se sentir moins seul. Et après, on verra par la suite comment on va procéder.
Vous êtes chargé du social ici sur la commune de Potigny, précisément quand les gens les plus démunis de la ville voient les efforts colossaux que vous faites pour des Ukrainiens. Très sincèrement, est-ce que tout le monde a l'empathie que vous avez pour cette cause ukrainienne, ou est-ce que vous entendez, non mais sérieusement, nous aussi on est là, on a des difficultés?
Oui.
Ça doit être compliqué à gérer en
interne. C'est compliqué à gérer parce que des deux demandes de logement à Potigny, la ville de Potigny est tellement conviviale qu'il y a beaucoup de demandes. Et donc il y a des personnes qui attendent depuis un an, voire deux ans, et puis le fait d'accueillir des Ukrainiens, ça porte difficulté, il faut être honnête. Mais c'est quand même une minorité. Puis on se pète un peu, quoi, entre guillemets.
On est donc dans la maison prêtée par la mairie. Maison qui a été prêtée à Ina, qui vient ici avec ses deux enfants de 10 et 11 ans. Ils sont à l'école en ce moment, ils sont scolarisés à Potigny. La maison n'est pas encore finie, c'est des travaux. Trois chambres,
ça résonne parce que c'est pas encore meublé. Ça résonne. Et là, dans l'autre chambre, c'est un atelier, on va dire, puisqu'il y a trois femmes ukrainiennes qui sont en train de poser le papier peint.
Si on fait ça tout seul, c'est pas sûr s'il va arriver.
Alors, il y a une préposée à la colle.
La colle, colle.
Voilà, colle.
La colle, les colles, les colles.
Deux autres qui préparent la bande de papier peint. On précise qu'il n'y a pas un seul homme dans cette pièce. On est en train de rénover un appartement.
Si il faut faire une rénovation chez quelqu'un, ils seraient prêts.
Voilà.
Eh bien, ça y est, c'est posé. Bonjour, Rina. C'est mieux que d'être dans une famille d'accueil, d'avoir cette maison pour vous et vos deux enfants.
Ici, c'est mieux. Au début, j'étais chez un couple qui attendait un bébé. Et j'ai passé mes premières semaines dans cette famille d'accueil, mais ils ne pouvaient pas faire face à toutes ces nouvelles responsabilités. Il y a eu des tensions là-bas, et donc on a déménagé ici.
Vous êtes plus indépendante ici, c'est ça aussi?
Bien sûr, oui. Et pour les enfants, l'école est tout près.
C'est à côté?
Oui, ils sont à l'école, en 10 minutes à pied.
Et pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous apprenez la langue française, vous allez chercher du travail. Quels sont vos projets à vous, Ina?
Cette question est trop difficile. En résumé, plus la guerre durera, plus je me lancerai dans l'apprentissage du français. Si je parviens un jour à trouver un travail dans mon domaine, je ne quitterai jamais la France. Le problème, c'est que je suis assez âgée et c'est dur de refaire sa vie ici. Mais la refaire en Ukraine, je ne suis pas certaine d'avoir la force. Je ne sais rien faire d'autre que de travailler avec un ordinateur, travailler avec des bases de données, c'est ce que je sais faire. Et si on m'a proposé du travail dans les champs, mais malheureusement, je ne suis pas capable de cueillir des fraises. C'était clair depuis le début. On va voir comment la guerre va se poursuivre. Il est possible que je reste ou que je reparte. Je ne peux pas me projeter si loin. La question est terriblement difficile. Tout est détruit chez nous. Ma maison est détruite. Notre ville de Kharkiv était si belle. On va essayer de la refaire aussi belle. Pour les quartiers où il y a eu beaucoup de bombardements, c'est encore trop tôt. Mais pour la partie moins touchée, on m'a dit que le maire de la ville essaye déjà de la réhabiliter. Quand tu vois les dégâts, c'est si difficile. L'Ukraine, ce n'est que le début. Je suis une adulte, je ne regarde pas le monde avec des lunettes roses. Je comprends que Poutine est un malade et n'a de pitié pour personne. Avant le 24 février, personne ne croyait à la guerre, même en sachant que son armée était à nos frontières. Mais à l'époque, c'était un peuple frère. Nous, habitants de Kharkiv, nous venons principalement des environs des côtes russes. Je ne sais pas comment tout ça a pu arriver.
Le logement, c'est une priorité. Mais sur le long terme, il faudra bien également trouver un emploi et pour cela, apprendre le français. Alors un peu partout, des cours s'organisent. Pour les enfants, l'école les accueille. Une cellule spéciale Ukraine est en place au ministère de l'Éducation. Pour les parents, ce sont souvent des bénévoles qui se proposent et s'installent, comme nous allons le voir, dans des structures existantes qui les accueillent.
Interception sur France Inter.
Nous voilà arrivés dans la cour de l'établissement Emmanuel Dalzon. C'est à Nîmes, dans le Gard. C'est un établissement privé qui accueille des élèves ukrainiens pour qui, bien évidemment, la priorité est l'apprentissage de la langue française. C'est le cas pour eux, mais c'est le cas aussi pour leurs parents.
Bonjour.
Moi, je suis un parent bénévole, voilà. Et je viens aider pour les cours de français.
Et vous parlez russe?
Pas du tout. Non, on applique la méthode FLE, français langue étrangère, et on fait beaucoup avec des images, du mime et tout ça. C'est assez ludique et ils apprennent beaucoup plus vite.
Bonjour.
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 C'est
Irina, la prof de russe, qui conduit ce cours.
Alors là, c'est pour qu'ils écrivent l'emploi qu'ils avaient avant. Justement, en recherchant le travail, qu'on peut vraiment trouver le mieux possible pour eux. Ah, есть вы есть конце последние? Нет у вас, Алексей? Нет, не вы, Алексей? А кто вы?
Владимир.
А вас нет тогда. Дописывайте себя, держите. Дописывайте.
Souvent vous dites je, mais c'est je. 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 Pas je, mais je. Je. Je m'appelle Marie.
Je m'appelle Marie.
Alors toi,
je m'appelle Marie.
Je m'appelle Marie. Ouais, bien. Alors comment tu t'appelles?
Vladimir.
Je m'appelle Vladimir. Allô, m'appelle Tatiana.
Je m'appelle Elena.
Je m'appelle Dali.
Je peux vous poser quelques questions en français? Vous êtes l'une des meilleures du cours.
Je m'appelle Ola.
Quel âge avez-vous?
J'ai 41.
Et vous venez de quelle ville en Ukraine?
Odessa.
Quel métier faisiez-vous en Ukraine, madame?
J'étais juriste à la banque.
Et vous cherchez un métier ici en France?
Oui, je voudrais. Je voudrais apprendre mieux français et être juriste aussi. Et si c'est possible, je ne sais pas. Je dois apprendre.
Bon courage.
Merci.
И получается, чтобы сделать 70, мы берем 60 плюс 10. И получится 70.
Allez, on est passé au chiffre.
72, 73.
La prononciation est très difficile. Apprendre les chiffres aussi. J'ai essayé d'apprendre l'allemand quand j'étais plus jeune à l'école. C'était bien plus simple pour les Ukrainiens. Dans quel but vous apprenez le français? Peut-être que je resterai ici. Je ne sais pas encore, parce que mon mari a rejoint la Légion étrangère. Il est ici en France depuis le mois d'octobre. C'est pour ça que j'ai choisi la France. Comment vous vous sentez ici dans votre nouvelle vie, va-t-on dire comme ça?
C'est très calme
et les gens sont gentils avec moi.
J'ai déjà des amis français.
Vous avez encore des proches là-bas à Kharkiv?
Oui,
la plupart de mes proches sont encore là-bas, mais ils sont en sécurité car ils ont quitté la ville pour aller dans des villages. Ils sont en relative sécurité sur place. C'est quoi votre plan dans le futur? Rester ici auprès de votre mari puisqu'il travaille ou alors retourner à Kharkiv?
J'ai
pensé revenir chez moi quelque temps pour me rendre compte de la situation, revoir mes proches, voir ma maison et ensuite revenir ici. Mais je ne suis plus sûre, pour être honnête. Vous êtes encore un peu perdue? Oui, je suis encore un peu perdue.
80.
80.
Moi, je m'appelle Parfenyuk Irina. Je suis enseignante de la langue russe à Dalzan depuis 2011.
Et vous êtes de quelle nationalité?
Moi, je suis russe. Je suis née en Russie. Je fais mes études en Russie. Et en fait, j'ai fait les études dans les langues étrangères, donc le français, qui mes professeurs ont transmis l'amour pour la France. Et à 21 ans, avec Bac plus 5, je suis partie à la découverte de la France et je suis atterrie ici à Nîmes. Et après, petit à petit, ma vie est faite ici.
Comment ça s'est passé pour vous? Ça a changé votre quotidien aussi?
Oui, bien sûr que ça a changé mon quotidien parce que c'est beaucoup, beaucoup d'heures en plus. Mais bon, on le fait. On est très content de voir qu'on leur apporte quand même de l'aide, de la sécurité, de quelques touches de l'avenir. En fait, ça les rassure. Moi, bien sûr que c'était évident. Je ne vous cache pas, on était en vacances quand tout est arrivé. J'avais un grand espoir que ça se termine assez vite parce que c'était choquant. On n'était jamais séparés. Pour moi, on est aujourd'hui même les peuples frères. On était 16, depuis 16 siècles ensemble. Ça surprend. Donc, pour moi, c'était évident que je vais leur aider. Alors, du coup, la première chose, j'ai appelé tous mes amis que je connaissais ici à Nîmes. Et forcément, ils étaient tous ukrainiens parce que, voilà, avant, on ne demandait pas. Maintenant, on demande d'où on vient. Avant, on disait juste « Ah, tu parles russe, chouette, ça s'arrêtait là. »
Sans demander la nationalité.
Ouais, la phrase s'arrêtait là. Maintenant, on précise. Je le comprends aussi. Ils veulent tout savoir d'où qui vient quoi. Et quand j'avais vu que Dalzan organise une collecte pour l'Ukraine, moi aussi, je voulais aider à mon niveau. Et donc, après, on était appelés par le ministère. Tous les professeurs de russe, ils étaient mobilisés pour aider, donner les cours de français pour les enfants, etc. Donc, je me suis inscrite aussi. Et ça a super bien marché. Les enfants, ils étaient très heureux d'aller à l'école. C'était impressionnant. En fait, le lendemain, ils me disaient, mais quand est-ce que je reviens? Et c'était fait tellement facilement pour eux. Et on avait les parents qui étaient tristes et nous, comment on peut apprendre la langue? Alors, du coup, on a dit, on va organiser quelque chose aussi pour les parents.
Ce qui fait que vous avez des élèves un petit peu plus vieux que vos élèves d'habitude quand vous avez des adultes.
Oui,
C'est un public particulier pour vous, ces adultes?
Non, parfois c'est un peu mal à l'aise parce que forcément, ils vont me répondre en ukrainien quoi. Je leur comprends qu'il y a certains qui ne veulent pas parler russe, etc. Mais après, on voit bien qu'ils ne veulent pas à moi. Je ne représente pas non plus toute la Russie.
Vous sentez ça de la part d'une partie de ces adultes, d'avoir en face d'eux, pour eux, une représentante de la nationalité russe? Donc ça peut-être les gêner. Vous le sentez, ça?
Peut-être pas forcément les adultes, mais les ados, entre tranches d'âge, entre 14 et 18. Ouais, ça arrive pas souvent, mais quand même, il y en a certains qui disent « je parle pas russe, je veux pas répondre en russe ». Mais c'est quelque chose que oui, je les comprends aussi.
Et avec le temps, ça s'estompe, il y a de moins en moins de réactions comme ça avec le temps aussi?
Je sais pas, parce qu'on a beaucoup de nouveaux arrivés à chaque fois, donc je sais pas. Mais parfois, ça arrive, mais je prends assez cool et au début, pour eux, c'est un peu peut-être choquant, mais après, quand ils viennent une fois, deux fois, trois fois, ils voient bien que je suis là pour leur aider et pas autre chose. Значит, ну, жуй, le verbe jouer, кто-нибудь знает? Никто не знает. Это глагол играть. Please take me back home. В парке, в саду, dans le jardin.
Avant de donner des cours aux parents, il a fallu d'abord intégrer les élèves ukrainiens. Il y en a une vingtaine désormais à Dalzan, à commencer par les plus petits en primaire.
Oui, tout à fait, très bien intégré dans la classe. Voilà, c'était un peu plus lent pour Igor, mais ça y est, c'est fait, mais il est un peu plus sur la réserve. Voilà. Bérénice, elle s'occupe beaucoup d'eux, beaucoup, beaucoup. Elle les a pris sous son aile. Et elle s'occupe beaucoup de... Oui, comment tu fais toi quand tu expliques les choses à Igor et à Nikita?
Et ils font bien le travail.
Comment tu lui expliques qu'on va à la bibliothèque? Tu lui dis quoi?
Je lui donne la main et on y va.
Voilà. Et puis pour le travail, comment tu expliques des fois?
Ben je lui montre, je lui fais une part, je lui fais un truc, puis après on gomme et après c'est lui qui fait.
D'accord, donc tu lui montres d'abord et puis après il fait la même chose, c'est ça?
Oui.
C'est ça, oui. Et pourquoi ils sont dans notre classe en fait?
Parce qu'il y avait la guerre en Ukraine. Ils ne pouvaient pas tout prendre et du coup ils ont pris quelques trucs qu'ils aimaient et après ils sont partis à Nîmes.
Voilà, et ils sont venus dans notre école. C'est ça? Voilà. Tu veux dire quelque chose toi? Oui?
Je lui ai appris à compter jusqu'à 30.
À qui?
À Nikita.
On va voir ce qu'il y arrive.
Allez, je te suis. Comment tu t'appelles, toi?
Paul.
Paul?
Oui, mais en vrai, on m'appelle Paula parce que j'ai deux Paul.
Donc, d'accord, t'es Paul A, toi, c'est parti. Allez, viens, on va compter avec Nikita.
Nikita?
Tu vas compter 1, 2, 3, 4, 5.
Tu vas compter jusqu'à 30, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30.
C'est bien quand même.
Allez, non, dis bonjour en français. 1, 2, 3, 4. Non, dis bonjour en français. Non, bonjour. Bonjour.
Bonjour Nikita.
À toi, Mozart.
Et comment je m'appelle, moi? C'est qui ça?
Et toi, tu t'appelles?
Allez. Maîtresse.
Maîtresse. Oui, bien. Maîtresse.
Toujours, on ne peut pas gagner les tables. Voilà. Tu n'as pas de crayon?
Le matin, ils assistent à leur cours classique avec leurs camarades français. Et puis l'après-midi, ils ont droit à des cours beaucoup plus spécifiques.
Vache, attention. Осторожно. Это лаваш.
Это банан.
Это банан.
Это банан.
С другой стороны.
Милена. Ле.
Bien.
Le lapin. Alors, ce qui est remarquable, c'est que quand ils sont arrivés, ils ne connaissaient pas l'alphabet latin. Et donc, ils connaissent déjà l'alphabet parfaitement. Donc, c'est pour ça qu'ils arrivent à déchiffrer et à lire, même s'ils ne connaissent pas le mot. Voilà.
C'est l'heure de la pause.
Oui, parce que nous, on fait la pause en dehors des autres classes. Comme ça, ils ont la cour des maternelles avec les vélos. Je m'appelle Sylvie Bouzanquet. J'ai été professeure à l'Institut d'Alzon pendant 21 ans. Je suis à la retraite.
Professeure de russe.
Alors, de russe et d'économie-gestion. J'avais un demi-poste de chaque, voilà. Mais j'ai enseigné pendant plus de 20 ans le russe à l'Institut d'Alzon.
Comment ça se passe avec eux?
Alors, et les débuts, ils étaient très, très réservés. Et puis maintenant, vous avez vu, ils sont... je pense que ça leur plaît beaucoup d'après leurs parents, parce que c'est un moment où ils se retrouvent déjà entre eux, parce qu'ils ne sont pas tous dans les mêmes classes. Et puis, c'est un moment un peu différent, parce qu'on est très peu nombreux. Notre but, c'est qu'ils soient, voilà, qu'ils soient bien, qu'ils commencent à se familiariser avec la langue, mais ce ne sont pas des cours voilà, classiques, on va dire.
C'est plus ludique que classique?
Voilà. C'est plus ludique que classique, voilà, tout à fait.
Vous voyez déjà des progrès, des assimilations chez ces petits?
Oui, il y a des très grands progrès. Et on a noté surtout mardi, quand on a repris après les vacances, j'ai trouvé beaucoup plus d'aisance. Je pense que les vacances aussi, ils sont quand même dans des familles françaises. J'ai trouvé beaucoup de différence après les vacances aussi, oui.
Alors on a vu l'empressement tout à l'heure qu'ils ont eu quand vous avez distribué une carte de leur pays. C'est touchant ces moments-là, ils sont vraiment jetés littéralement sur la carte pour nous montrer où est-ce qu'ils vivaient avant.
Voilà. Oui, parce que en fait, on n'en parle pas. Là, je voulais qu'ils se présentent à vous, donc c'était bien de rappeler d'où ils venaient, parce qu'effectivement, on n'en parle pas, on laisse venir
les émotions, les choses toutes seules. Bon, ça s'exprime beaucoup par le dessin. Lorsqu'on a dessiné, je vous montrerai quelques dessins. Quelquefois, il y a des choses qui sont sorties assez difficiles et touchantes. Bon, nous, on ne pousse pas, bien sûr, à ça. Mais lorsqu'ils ont besoin de le dire ou de le faire, on les laisse faire, bien sûr. Hein. Bravo, maladiette, Katia. Maladiette. Ils vont vous faire un dessin, ils ont dit. Vous faites un dessin. Vous venez. Prenez les vélos. Il y a le vélo là.
Stop.
Votre prénom c'est...
Vanessa.
Il y a Vanessa. Là, vous dites Yagrisovat, Krasiv Risunok. Alors voilà, c'est des dessins à Prokhor et à Siouma.
Donc avec des chars,
voilà.
Un drapeau ukrainien, il y a un immeuble voilà. Qui
alors,
semble
là,
être en
feu. Alors on n'a pas très bien compris, voilà. Oui. On n'a pas tout compris. Voilà.
C'est
un
jour
de cœur, hein.
La vie en suspens des réfugiés ukrainiens en France. Reportage de Vanessa Descoureaux. Réalisation Jérôme Chélius. Assisté de Martine Messonnier. Mixage Dofar Guéride. Émission déjà disponible à la réécoute sur franceinter.fr.